Et c'est ainsi que commence notre rendez-vous auquel vous êtes parfaitement habitué du troisième jeudi de chaque mois avec le GREMOS. Rappelons bien que le GREMOS est le groupe de recherche et d'études sur le mouvement ouvrier stéphanois. Et aujourd'hui, notre intention est tout à la fois de revenir sur la troisième rencontre d'Histoire ouvrière de Saint-Étienne qui a eu lieu le jeudi 12 novembre et le vendredi 13 novembre, et puis d'aborder un autre sujet que vous allez découvrir avec, je pense, beaucoup de plaisir. Alors, ces journées du GREMOS, Jean-Paul, nous les avions préparées pendant plusieurs mois. Mm-hmm. Comment ça s'est passé ?
Alors, donc d'abord, on va parler en premier de la soirée musicale du jeudi 12 novembre, qui s'est passé avec Stefano Moscato et, j'oublie le prénom,
Manuel Mendes,
voilà, qui nous ont donné à la fois des chansons de leur pays, la Sicile et le Portugal, et des, pour ce qui est le cas des chansons portugaises, des chansons d'avril, de la Révolution d'avril, avec en particulier la chanson qui a déclenché, qui était le déclencheur du coup d'État, qui s'appelait Grandola Villa Morena, que les anciens se rappellent. Et puis Stefano Moscato nous a chanté des chansons siciliennes et nous a fait chanter
Oui, enfin on a eu du plaisir, voilà, à l'accompagner, hein.
Voilà, c'était très bien.
Oui, alors, journée plus sérieuse, mais enfin, néanmoins, la soirée du jeudi était extrêmement intéressante et sérieuse aussi, hein, mais journée plus universitaire, disons, le vendredi 13, dans le cadre de l'amphi du 10 de la rue Tréfilerie. Alors, un amphi que je découvrais et qui est tout à fait opportun pour ce type de rencontre que nous avions. Journée qui avait été organisée en partenariat avec le centre Max Weber, donc les équipes de sociologie de l'université, la participation des archives municipales de Saint-Étienne et bien entendu le soutien de la ville de Saint-Étienne. Alors, cette journée avait pour thème les immigrations, les resituant à la fois dans le domaine de l'usine et de la cité sur une période qui allait des années 70 à aujourd'hui. Deux parties, deux temps, le matin et l'après-midi, bien distinctes, Jean-Paul ?
Oui. Donc, le matin, en gros, ce qu'on pourrait appeler la participation d'immigration avec les luttes ouvrières, avec une table ronde faisant appel à des anciens syndicalistes, et puis deux
interventions d'universitaires,
voilà.
Vincent Guay
sur les luttes dans l'automobile dans les années 1980, et puis une intervention que nous avons faite avec Alban Graziotin sur une lutte qui avait eu lieu en 1974 aux aciéries du Furon à Saint-Étienne.
Voilà. Et l'après-midi a été davantage consacré sur les lieux de sociabilité fréquentés par les immigrés.
Voilà, alors il faut dire que par rapport à ce que nous avions prévu, l'absence pour des raisons médicales d'Ahmed Boubekher pour faire la transition entre les luttes d'usine du matin et les luttes dans la ville l'après-midi a été un peu préjudiciable, voilà, parce que évidemment il nous aurait amené quelque chose qui nous a un petit peu manqué sur les luttes dans la cité, quoi. Voilà.
Voilà, des suites à cette journée, bien entendu, puisque nous avons prévu d'éditer un catalogue, un document reprenant les principales interventions et les tables rondes.
Des actes, quoi.
Des actes. Et puis, Lionel, il est prévu que l'on puisse, puisque dans cet après-midi, nous avons parlé des cafés stéphanois qui étaient considérés comme un relais dans l'engagement des immigrés, que l'on puisse faire un petit tour dans les rues de Tarentaise et autres pour passer dans et pour connaître ces cafés.
Oui, bonjour Maurice et Jean-Paul. Oui, simplement revenir en effet. Alors des actes, tu l'as dit, sur ces rencontres du Grémos, des actes et des mots, j'imagine, et des sons, puisque nous aurons l'occasion aussi dans cette émission mensuelle de pouvoir rendre compte via différents extraits d'interventions qui ont eu lieu lors de cette journée d'études. Ce sera pour les prochaines émissions, soit de ce dernier rendez-vous de cette année 2015 en décembre, ou alors courant 2016, bien entendu. Et en effet, tu rappelles les cafés qui relate aussi l'histoire de l'immigration à Saint-Étienne, et c'est l'occasion aussi de rappeler que ces rencontres, ces journées d'études du Grémos sont intervenues dans le cadre d'une expo qui est actuellement en place et installée jusqu'à juillet 2016 aux archives municipales de Saint-Étienne, Saint-Étienne cosmopolitaine des migrations dans la ville. On avait parlé en effet largement sur cette antenne et avec le Grémos des cafés et tout le travail de la sociologue Catherine Gauthier au sein du Grémos sur ces questions-là, avec un film d'ailleurs qui est en cours de réalisation. Alors simplement rappeler que dans le cadre de cette exposition, différentes animations interviennent pour aussi ponctuer, animer cette installation et cette expo au long cours. Et en effet, autour des cafés, mais pas seulement, c'est l'histoire de l'immigration dans la ville à Saint-Étienne et sur le quartier, plus précisément Tarentaise, Beaubrun, Séverine, qu'aura lieu une balade urbaine. Laissez-vous compter, ce sont des rendez-vous réguliers dans le cadre du label Ville Pays d'Art et d'Histoire de Saint-Étienne. Eh bien, un circuit sera proposé avec Saint-Étienne, Ville Art et d'Histoire à Saint-Étienne le 28 novembre prochain. Et au fil de cette marche urbaine, eh bien, vous aurez l'occasion de retrouver en compte, quelque part, l'histoire des migrations à Saint-Étienne dans le quartier populaire et multiculturel de Tarentaise. C'est le samedi 28 novembre prochain, de 15h à 16h30. Rendez-vous est donné devant la mairie de proximité au 20 rue Tarentaise. D'autres rendez-vous peut-être encore dans ce cadre-là. Tout d'abord, des visites commentées de l'exposition Saint-Étienne cosmopolitaine. Et la dernière prévue pour cette année 2015 sera le mercredi 2 décembre prochain à 15h. Donc l'occasion de découvrir aussi cette exposition en compagnie d'un médiateur des archives. Vous pouvez vous inscrire via le numéro de téléphone suivant 34 40 41 précédé du 04 77. Bien entendu, les journées d'études du Grémos intervenaient dans le cadre de ces animations proposées. Et simplement deux autres rendez-vous, si tu me le permets, Maurice. Les journées d'études du Centre des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes, qui a travaillé sur les musiques migrantes, comment sonne la ville. Donc c'est un travail de dialogue autour du collectage musical en contexte urbain. C'est en partenariat avec l'Université de Nanterre, l'association In Situ plus précisément. Ce sera le 4 décembre prochain. Vous avez toutes les infos sur la toile cette fois, cmtra.org. Et puis le 13 décembre prochain, un spectacle cette fois pour commémorer le centenaire du génocide arménien. Quanticum Novum prend le parti de créer un programme original, lumineux, aérien, faisant renaître ce dialogue interculturel entre la France et l'Arménie. Ce sera le 13 décembre prochain à Saint-Étienne. Voilà, et puisqu'on est en chanson en musique, Jean-Paul, je ne sais pas, peut-être Bella Ciao, non, vous avez chanté jeudi
soir. C'est absolument ça, c'est Bella Ciao, merci Lionel.
Ça nous permet juste peut-être de faire une petite respiration musicale avant de vous retrouver, Jean-Paul et Maurice, pour nous parler de cette grève des cheminots de Saint-Étienne en 1920. Ce sera le menu sujet du jour.
Alors, retour sur la mémoire ouvrière avec plus spécialement aujourd'hui l'étude de la grève des cheminots de Saint-Étienne en 1920, cheminots de la Loire aussi, grève curieuse où l'on voit les élèves de l'école des mines entrer dans l'arène politique, ce qui n'est pas courant.
D'accord, donc voilà déjà un sujet intéressant. Et donc on revient par rapport à ce qu'on disait à l'instant, on revient presque 100 ans en arrière. Et alors qu'est-ce qui fait que tu nous proposes aujourd'hui de faire ce grand retour dans les premières années du siècle précédent?
Eh bien, nous nous relions encore à l'actualité culturelle stéphanoise, vous voyez qu'elle est assez riche, à travers le bicentenaire de l'école des mines. Alors, je sais bien que ce bicentenaire sera vraiment célébré le 2 août 2016, mais la personne, Hervé Jacquemin, qui a été chargé de la, qui a eu la charge de l'organisation de ce bicentenaire, a souhaité remonter beaucoup plus en amont pour lui donner un certain volume. Et déjà, dans les semaines qui ont précédé, il y a eu deux événements. Un qui était en lien avec les journées du patrimoine et qui correspondait à une visite des sites dans la ville qui étaient capables d'évoquer l'histoire des écoles des mines successives qui sont succédées à Saint-Étienne. Et puis tout récemment, l'exposition qui a eu lieu à la mairie de Saint-Étienne intitulée « Des mines et des tranchées » qui s'est déroulée du 9 au 14 novembre. Alors, c'est parce que Hervé Jacquemin, préparant ce bicentenaire, s'est plongé dans les placards de l'école qu'il a retrouvé le journal de l'association des élèves qui s'appelle « Le Pic qui chante ». Il faut bien entendre le mot de « pic », c'est-à-dire que c'est le pic minier, non pas l'oiseau. Et dans cette revue, en 1920, il a découvert qu'on faisait allusion beaucoup à la grève des cheminots de 1920. Alors, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu voudrais écrire un petit papier ? Parce qu'il a l'intention, durant l'année 2016, d'avoir une chronique dans laquelle, de façon assez répétitive, il y aura des retours sur ce qui se passait en 1920. Voilà. Puis je crois que cette grève mérite au niveau des historiens d'être revisitée, et je dis bien revisitée parce qu'il me semble qu'elle fait partie de ces moments importants de l'histoire ouvrière qu'on a un petit peu oublié ou sur lesquels on a mis le couvercle, parce qu'en définitive cette grève, et c'est Annie Kriegel qui a écrit un volume très, très intéressant sur cette grève, qui explique qu'en fait c'est à travers elle que s'est produit la naissance de la CGTU en décembre 1921.
Alors, CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, je pense que pour nos auditeurs, il faut en dire un mot.
Bien sûr. Alors, on le comprendra très bien à travers ce que l'on va dire à propos de cette grève, c'est que dans le monde ouvrier, loin était l'unité d'action et l'unité de pensée. Et il y avait à la fois des majoritaires, des minoritaires, des extrémistes et des modérés. Et pendant ces événements que nous allons relater, on s'est aperçu que, à certaines reprises, ce sont les majoritaires modérés qui ont guidé le mouvement, et puis à d'autres moments, les révolutionnaires ont trouvé que le mouvement était beaucoup trop ralenti et ont voulu donner le tempo. Et comme cette grève de 1901 débouche sur un échec retentissant, hein, la classe ouvrière, et notamment chez les cheminots, est complètement laminée, eh bien on peut dire que la volonté, c'était de redonner à la fois un horizon de combat et à la fois de rassembler les forces à travers cette Confédération Générale des Travailleurs Unitaires.
D'accord. C'est-à-dire que cette grève annonce une scission de la CGT.
Et annonce une scission de la CGT.
D'accord. Alors, cette grève, on pourrait la remettre dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce que tu peux nous dire on est très peu de temps après la fin de la Grande Guerre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en plus, quoi ?
Et oui. Deux ans après la guerre, c'est très peu. La guerre est toute fraîche encore dans les esprits. Et les populations vivent durement, la vie est chère, l'augmentation des prix des denrées de première nécessité ne s'est jamais arrêtée depuis la guerre, elle se poursuit avec la paix. Et cela est très mal ressenti, parce qu'en quelque sorte, il faut prendre sur la durée, les ouvriers ont connu 5 années de souffrance, et cela en dépit des engagements qui avaient été pris par les politiques d'améliorer la situation. Et on pourrait presque dire que la situation en 1919 est peut-être pire que celle que les Français ont connue en 1914. Hein. En 1919, ça semblait beaucoup pire. Mmh. Et puis il faut ajouter le problème du chômage. Car pensons bien que les soldats qui ont été démobilisés reviennent et pensaient retrouver leur travail. Eh bien non, c'est pas possible, parce que toutes les entreprises métallurgiques dans la région stéphanoise qui ont travaillé pour l'armement licencient, Et malheureusement, beaucoup de ces jeunes gens qui reviennent du front se retrouvent placés sur le côté. Et puis, bien entendu, il faut lever les yeux sur ce qui se passe à l'étranger et faire allusion à la révolution russe et les espérances qu'elle peut susciter chez les ouvriers stéphanois. Alors, cette révolution russe secoue très largement l'Europe. On en voit les conséquences en Allemagne avec la révolution spartakiste, Rosa Luxembourg et Liebknecht.
Hongrie
avec Béla Kun. Mm-hmm. Hein. Sur ces questions-là, Alban Graziotin, qui intervient souvent ici au nom du Grémos, a réalisé son Master 2 sur le sujet du mouvement ouvrier dans le bassin stéphanois de juin 1918 à fin 1920. Et voilà ce qu'il dit à propos des répercussions de la révolution russe. Il existe des militants soucieux de préserver une orientation syndicaliste révolutionnaire dure au sein de la CGT qui se réfère à la charte d'Amiens. Il est question de l'abolition du salariat, de la lutte contre la société capitaliste et bourgeoise et de la révolution sociale. Autrement dit, on le voit très clairement, dans cette période 1918-1920, le syndicalisme fait entrer de nouveaux questionnements qui lui avaient été jusque-là totalement absents.
Alors, il y a le syndicalisme, puisqu'on a parlé de la scission de la CGT, mais il va y avoir aussi la scission, peut-être tu peux nous en dire un mot, la scission du Parti Socialiste de l'époque, qui devait s'appeler la section française de l'Internationale Ouvrière, et il va y avoir le congrès de Tours, et avec la création de deux partis, donc la SFIO et puis le Parti communiste français.
Et oui, bien entendu. Et un moment important, évidemment, au niveau national, mais au niveau local, parce que on va constater que dans la nouvelle équipe municipale de Saint-Étienne, celle qui avait été élue en novembre 1919, nous avons Ferdinand Faure, qui va fonder donc en 1920 au congrès de Tours, il va contribuer à créer le Parti communiste.
D'accord.
Et il est aux côtés du député maire de Firminy, Ernest Lafont.
D'accord. Bien. Alors, on va peut-être maintenant revenir quand même, puisque dans cette situation que tu nous as décrite, il y a le chômage, il y a les répercussions de la révolution russe, mais en même temps, les années 1918 et 1919 ne sont pas identiques. Il y a un changement qui se produit, semble-t-il, en mai 1919. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Oui, c'est assez classique ce qui se passe. Au retour de la guerre, les ouvriers et les syndicats entendent occuper les postes vacants, hein, qui sont essentiels dans le contrôle des organismes centraux. Donc la première préoccupation des syndicats est de voir comment on peut répartir les postes aux individus dans les UD, à la Bourse du Travail, dans les conseils syndicaux, dans les différentes branches. Bon, ça c'est un fait. Et puis, curieusement, en dépit des conditions qu'on rappelait tout à l'heure, qui sont particulièrement difficiles, curieusement, la combativité ouvrière est faible. Et entre mai 1918 et mai 1919, sauf chez les mineurs, on ne voit pas beaucoup les ouvriers s'organiser et lancer des mots d'ordre et lutter. Pourquoi ? Ben, d'abord, on peut dire que la force de répression qui s'était fait jour pendant les grèves, pendant la guerre, a été telle que les ouvriers se trouvent un petit peu dépourvus et se disent « attention, on ne veut pas courir le risque de perdre à nouveau notre emploi quand on a eu la chance d'en trouver un ». Et puis, alors bien sûr, c'est la chute vertigineuse des effectifs syndicaux dans cette période-là. Changement complet, comme tu le disais, à partir du 1er mai 1919. C'est un 1er mai mémorable qui a eu lieu, surtout quand on feuillette les journaux de l'époque, on s'en aperçoit. La Tribune nous montre qu'il y avait 30 000 personnes qui s'étaient rassemblées, et Le journaliste de la Tribune ajoute une petite remarque assez amusante. Et il y avait, dit-il, 100 000 spectateurs. Alors, on ne sait pas très bien à qui correspondent ces 100 000 spectateurs. Alors, ce 1er mai coïncide avec un renouveau des luttes, notamment pour faire pression sur le gouvernement, et notamment sur Antoine Durafour, car, replongeons-nous un petit peu dans l'histoire de la durée du temps de travail, en 1905, les mineurs avaient eu pour la première fois la prise en compte de cette revendication qui était ancienne, de la journée de 8 heures. Mm-hmm. Ça avait été quelque chose de retentissant. Mais pour les autres professions, bah rien, on était toujours dans des journées de travail beaucoup plus longues. Et les ouvriers se disent, ça y est, c'est le moment, il faut reprendre notre mot d'ordre autour de la journée de 8 heures. Alors on voit, à partir de ce 1er mai, une multiplication de grèves dans les secteurs, parfois dans des secteurs peu revendicatifs, et habituellement, les métallos qui étaient toujours au premier plan, difficile à expliquer, se tiennent en retrait. Tous ceux qui se mettent en grève mènent des grèves qui sont dures, grèves de 4 jours chez les mineurs entre le 18 et le 22 mars 1919, grève de 5 semaines contre les maîtres teinturiers à partir du 19 février. Et puis, là encore, les plus virulents, c'est quelque chose qu'on va se voir se confirmer plus tard, sont les cheminots. Alors, bien revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la conjoncture locale a changé depuis les élections municipales du 30 novembre 1919. C'est le triomphe d'un bloc républicain des forces de gauche, et l'on a à la mairie de Saint-Étienne une coalition qui fait que, côte à côte, nous avons Antoine Durafour et Louis Soulier, le futur maire, et puis des socialistes de l'SFIO, on le disait tout à l'heure, Ferdinand Faure, et puis on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, Jacques Le Griel, le tribun du barreau stéphanois.
D'accord. Eh bien, on va peut-être faire une petite pause musicale maintenant. Eh bien, ceux qui vont se mettre en avant là maintenant, c'est une corporation que tu n'as pas citée, c'est les cheminots qui vont se mettre en grève. Alors pourquoi les cheminots à ce moment-là, en quoi c'est important?
Oui, une corporation sur laquelle nous au Grémos, nous n'avons pas beaucoup travaillé, dans ces émissions mensuelles, nous n'en avons pas beaucoup parlé, et pourtant, à la fin de la guerre, le syndicalisme chez les cheminots n'est absolument pas affaibli. Je dirais que c'est probablement la seule corporation où le syndicalisme ressort indemne, tout simplement parce que les cheminots ont été mobilisés. Et ils étaient à leur poste de travail, les organisations syndicales ont continué à alimenter la réflexion, et il n'y a pas eu de désorganisation comme on a pu en connaître dans les autres professions. Mieux, les deux syndicats ont fusionné, il y avait deux syndicats primitivement, elles ont fusionné en fin janvier 1917, ce qui fait que on redémarre en 18-19 avec des effectifs de 400 000 syndiqués, c'est-à-dire que c'était la fédération qui pesait le plus lourd à l'intérieur de la CGT, environ un tiers des effectifs.
D'accord.
Et puis, il faut bien comprendre aussi que ce métier est un métier stratégique, parce que des cheminots se mettent en grève, c'est la paralysie du pays.
Oui, on l'a vu, on le verra à d'autres moments dans l'histoire du XXe siècle, d'ailleurs, ce rôle-là. Mais donc, cette grève a été impulsée depuis Paris, comme le montre un extrait du journal stéphanois, le Mémorial de la Loire.
Les causes. On ne sait s'il faut dire cause ou prétexte. Les cheminots en donnent deux. La première, une mesure disciplinaire de 2 jours de mise à pied, infligée à 3 de leurs camarades de Villeneuve-Saint-Georges, de Lyon et de Nice, qui s'étaient rendus à Dijon à une réunion syndicale, sans autorisation de leur chef. Cette mesure, les cheminots la considèrent comme un abus de pouvoir et la négation de leur droit syndical. La compagnie PLM, disent-ils, se montrant inflexible, refuse de revenir sur ces décisions arbitraires. Nous sommes donc obligés, la persuasion étant restée sans effet, de faire usage de la force, de notre nombre et de notre discipline. La seconde raison de la grève, toujours au dire des cheminots, est l'abandon par la compagnie de l'étude de leurs revendications professionnelles, ou tout au moins le retard volontaire qu'elle apporte à cette étude et à l'application des réformes demandées.
Donc, la grève va être impulsée au niveau national.
Oui, beaucoup de choses sont dites dans cet extrait d'article du Mémorial. En effet, la grève a eu pour détonateur un événement qui s'est déroulé à Périgueux. Et on est dans une profession particulièrement sensible à tout ce qui fait que le droit de grève n'est pas respecté. Et immédiatement, spontanément, ce sont les grands ateliers de Villeneuve-Saint-Georges qui décident de se mettre en grève. Et par contagion, tous les services de Villeneuve-Saint-Georges se mettent en grève. Et alors, il se passe une chose. C'est que le secrétaire de l'Union des syndicats cheminots, qui s'appelait Midol, décrète de sa propre initiative, sans en référer aux états-majors, la grève du réseau PLM. Paris, Lyon, Marseille, à cette époque-là, nous avions 5 ou 6 réseaux importants de chemin de fer. Alors évidemment, la direction du PLM riposte et décide immédiatement la révocation de 300 grévistes. Et cela a pour effet de mettre tous les autres réseaux dans la grève qui cessent à leur tour le travail. Alors tout à l'heure, dans cet extrait du Mémorial, il était dit que la fédération revendiquait un certain nombre de points. Alors je les énonce, ces points. Augmentation de salaire, établissement d'un statut définissant les droits du personnel, extension des commissions paritaires aux petites compagnies et l'abandon des poursuites et des sanctions contre les grévistes. Ce qui est important, c'est que derrière la Fédération des cheminots, la CGT n'hésite pas un moment et décide d'appuyer le mouvement et menace de jeter dans la bataille les autres corporations, les mineurs, les dockers, les employés dans les ports et tous les moyens de transport si c'était nécessaire. Donc le gouvernement prend peur. Les directeurs de réseau qui voulaient être solides dans leurs bottes sont contactés par le gouvernement, par le président Mirand, et finalement c'est le gouvernement qui exige que des négociations aient lieu.
D'accord.
Autrement dit, on peut dire que la première grève des cheminots de février est une victoire.
D'accord. Et alors, il va y avoir des... Mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'à partir du 1er mai, il y a d'autres mouvements.
Alors, ça, c'était le premier round, disons.
D'accord.
Les négociations traînent. Les ouvriers ont l'impression que le climat est complètement pourri, qu'on les mène en bateau. Et pire que ça, les militants sont sanctionnés. Midol est révoqué. Parallèlement, les non-grévistes de la première grève de février reçoivent un double salaire, donc autant de vexations qui sont absolument insupportables. Alors, bientôt, sur la pression des syndicalistes révolutionnaires, on décide que la grève va devenir général le 1er mai 1920. De février à mai, la marmite a bouillonné, ça en est trop, le 1er mai devient soutenu par la CGT, une journée où la grève va redémarrer et la CGT annonce que les grèves d'abord de cheminots vont ensuite être, les cheminots vont être rejoints par vagues successives par toutes les autres corporations. Cette grève du 1er mai est extrêmement violente à Paris. Je ne sais pas pourquoi la mémoire s'est privée de garder en souvenir ces manifestations de Paris. Il y a eu 2 morts et au cours de cette journée, les enchères remontent puisque les cheminots, cette fois, réclament la nationalisation des réseaux. Ça n'avait jamais été demandé jusqu'à présent. Et puis, on annonce, ils sont rejoints successivement, comme on le disait, les dockers, les marins, les mineurs, les métallos, le bâtiment, les électriciens, les gaziers, etc., etc.
Sous forme de journée.
Sous forme de vagues successives, mais grève générale et de longue durée.
D'accord.
Et l'État réplique, les dirigeants sont arrêtés, les compagnies révoquent les militants, le Conseil des ministres menace de dissoudre la CGT. Cette dernière menace ébranle les cheminots. À l'intérieur de la Confédération, les discussions sont très âpres, les débats extrêmement houleux, et puis finalement, le ressort est cassé. La fédération appelle à la reprise le 28 mai, c'est-à-dire qu'on peut dire que cette deuxième étape de la grève des cheminots de mai est un échec. Il y a 400 militants cheminots qui sont inculpés, il y en a 20 000 qui sont révoqués, c'est-à-dire 12% de la profession.
C'est énorme.
Jamais il n'y a eu une répression aussi forte.
D'accord. Et alors, et dans la Loire, comment ça se passe ?
Alors dans la Loire, sur le plan chronologique, on a absolument la même périodicité, c'est-à-dire que la grève commence le 25 février, comme ailleurs, par une réunion à la Bourse du Travail. Il y a là un grand nombre de personnes. Les grévistes sur Château-Creux et les autres gares sont au nombre à peu près de 4000. Sur Roanne aussi, le mouvement est très suivi. En revanche, sur Saint-Chamond, semble-t-il, il n'y a qu'une dizaine de grévistes. La grève prend fin le 3 mars et on sait par un certain nombre de documents, notamment des renseignements généraux, que Pierre Chauvet, qui animait sur place la grève des cheminots, qui est lui-même un cheminot, est applaudi. Donc, semble-t-il, il y a bien ce sentiment, comme on le disait tout à l'heure au niveau national, d'une grève qui est victorieuse. Et puis surviennent sur la région stéphanoise les exaspérations, les mécontentements, on s'aperçoit que les négociations traînent en longueur, et les militants majoritaires qui avaient accepté la négociation sont critiqués, et notamment Pierre Chauvet. Un congrès de l'Union du PLM a lieu à Roanne, les 22 et 25 mars. Midol est présent, donc on a bien compris que Midol, c'était la personne qui avait poussé aux extrêmes le mouvement. Il fait l'apologie du bolchevisme, et il a une ligne extrêmement dure, et face à lui, le pauvre Chauvet, qui n'en peut plus, et qui reconnaît il n'a peut-être pas été à la hauteur. Et on le voit le soir même, parce que les états-majors qui étaient à Roanne les 22 et 25 viennent le 25 au soir à la Bourse du Travail à Saint-Étienne. Et le pauvre Chauvet, je reprends la même expression, s'explique devant ses militants et propose sa démission devant Midol, considérant que c'est Midol qui avait adopté la voie la plus sûre. L'Assemblée acclame Chauvet et oblige Chauvet à revenir sur sa démission. Le deuxième round à Saint-Étienne, comme au niveau national, le 30 avril à minuit, les cheminots se remettent en grève. Et alors, le 1er mai, les manifestations du 1er mai à Saint-Étienne sont des manifestations qui sont aussi extraordinaires. La grève est générale. Et immédiatement, dans le bassin de la Loire, toutes les corporations rejoignent les cheminots. Ça n'a pas été comme au niveau national. Alors, pour nous faire un petit peu sourire, sachez que les coiffeurs, je ne savais pas que les coiffeurs pouvaient faire grève, se sont lancés dans la grève et ils ont tondu et rasé gratuitement. Et alors, une petite info, que, moi, qui m'a beaucoup secoué, c'est que les passementiers, qui sont vraiment la profession la plus indépendante qui soit, qui ne participent jamais aux mouvements nationaux, annoncent qu'ils vont eux-mêmes probablement rentrer dans la grève. L'acmé, de, le plus grand moment de cette grève dans la Loire, ça a été le dimanche 9 mai. Un grand cortège qui se met en place à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, drapeau rouge en tête, avec tout le conseil municipal de Saint-Étienne, le maire, malgré ses opinions beaucoup plus modérées. Toutes les grandes fédérations sont là et prennent la parole et se rendent en cortège au terrain de l'aviation de Méhon. On se demande, mais vraiment, les journalistes de l'époque qui en font le compte-rendu se demandent si Saint-Étienne ne va pas connaître le grand soir. Vous voyez, un certain décalage par rapport à d'autres villes.
Et alors, comment ce décalage va se résorber? On peut penser qu'il va se résorber.
Eh bien, il se résorbe, évidemment, parce que, étant donné ce que j'ai expliqué tout à l'heure au niveau national, tout d'un coup, les militants se rendent compte qu'ils ne sont pas suivis, que loin d'être suivis, plutôt, ils sont lâchés. C'est la désolation complète d'apprendre que l'ordre de reprise à Paris va bientôt être donné, et la note est sévère. Les effectifs syndicaux vont baisser de moitié. Échec, mais échec très 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 douloureux pour le monde syndical localement.
D'accord.
Dans cette grève, curieusement, on voit apparaître, intervenir des personnes qu'on n'attendrait pas. C'est les élèves de l'école des mines de Saint-Étienne.
Oui, bien dire qu'à l'époque, l'école des mines se trouvait à Chantegrillet, là, sur la colline. Au cours de la visite dont on parlait tout à l'heure, là, j'ai eu le plaisir de voir, de découvrir que le parking sauvage qui existe là à Chantegrillet est aujourd'hui à l'emplacement de l'école des mines de l'époque. Alors oui, Jean-Paul, il se passe quelque chose qui surprend. Au cours de cette grève des cheminots, tant à Paris que dans les grandes villes où existaient des écoles des mines, les étudiants de l'école centrale, les étudiants des arts et métiers, les étudiants de l'école des mines, sont entrés dans le jeu. On les voit, quitte à passer pour des casseurs de grève, hein, bien entendu, on les voit à partir du 28 février, et à nouveau pour la seconde grève le 1er mai, se mettre au service des compagnies, notamment de la compagnie PLM, pour remplacer les grévistes dans les gares. Alors, les journalistes ne se privent pas de, quelles que soient leurs opinions, hein, les journaux de gauche pour pourfendre ces étudiants et les journaux de droite pour louer leur patriotisme. Alors, à Château-Creux, ils sont, nous dit-on, divisés en plusieurs groupes qui font les uns leur apprentissage d'aiguilleur, les autres apprennent à conduire les locomotives, les autres s'exercent au maniement du ringard. Alors le ringard, c'était cette tringle qui était utilisée pour attiser le charbon dans la machine à vapeur. Mmh. Et bon, ils n'avaient pas la prétention de devenir des vrais mécaniciens, mais en tout cas, ils étaient capables d'être des chauffeurs de locomotives. Et ils ne sont pas les seuls à assurer le service des trains. On retrouve sur place des volontaires. Alors, très intéressant de voir que parmi ces volontaires, nous avons la Ligue d'Action Civique, donc la droite, les retraités du PLM, les anciens poilus. Et alors, comment il faut comprendre cet engagement des élèves de l'école? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les promotions de 1913 et de 1914, qui sont rentrées à l'école pour commencer leur cursus, et qui ont été convoqués, enfin qui ont été mobilisés, et qui sont, alors de nombreux ont été tués, 143 d'entre eux sont morts au front, mais ceux qui sont revenus, ben, ils sont revenus peut-être avec un esprit d'ancien combattant. Et alors, sans vouloir déclencher avec la polémique avec les syndicats, d'une façon très spontanée, disent-ils dans leur numéro du Pic qui chante, ben, ils ont estimé que c'était de leur devoir patriotique de participer au sauvetage de la nation, parce qu'il ne fallait pas, disent-ils, que la population française qui avait déjà tant souffert pendant la guerre manque de nourriture, et que les industriels qui commençaient à peine à faire refonctionner les entreprises manquent de matières premières.
Alors ça, ça va leur être reproché évidemment au conseil municipal de Saint-Étienne. On a deux textes là-dessus, et puis un troisième texte dans lequel ils répliquent aux critiques qui leur sont portées.
Voilà. Alors au cours de la séance du conseil municipal du 12 mai 1920, il se passe quelque chose en fin de séance qui sort du programme qui avait été prévu, mais à mon avis qui était patiemment envisagé à l'avance. Ferdinand Faure prend la parole et il dit qu'il vient de découvrir que les industriels de Stéphanois, notamment de la métallurgie, se retirent du financement qu'ils avaient promis de fournir pour construire des habitations pour ouvriers. Et là, à ses yeux, c'est une manière tout à fait indigne de revenir sur des promesses. Et par ailleurs, il diminue leur participation à la construction de l'école des mines, puisqu'il y a un gros projet qui est envisagé Courforiel de reconstruire une grande école des mines nationale. N'oublions pas d'ajouter que c'est une école nationale. Et devant ces deux retraits des industriels, indignation du conseil municipal.
À deux reprises, ces jeunes gens se sont permis d'entrer en lutte ouverte contre la classe ouvrière systématiquement et en se dressant contre elle d'une façon déloyale. Ils nous dictent notre conduite. Ceux qui ont pris l'initiative de la reconstruction de l'école des mines, ceux qui nous demandent, au lieu de 213 000 francs, 700 000 francs pour les travaux, qui veulent imposer cette charge aux contribuables, déjà accablés d'impôts à la suite de la guerre, ce sont les gros profiteurs qui ont accumulé, au cours de cette guerre, des fortunes colossales dans cette région stéphanoise.
Cette dernière phrase est tout à fait intéressante, parce que à elle seule, elle résume le contentieux qu'il peut y avoir entre un monde ouvrier représenté par les syndicats et ici, à la mairie, par la SFIO. Les gros profiteurs qui ont accumulé au cours de cette guerre des fortunes colossales, c'est quelque chose qui est colporté partout. Et alors, dans ce débat très très houleux, Jacques Le Griel, le cinquième adjoint communiste de la mairie, veut en découdre lui aussi, mais moins avec les industriels, les profiteurs de guerre, qu'avec les élèves et les professeurs de l'école. Une école qui, à ses yeux, est devenue un petit peu un foyer d'Action française.
L'école des mines de Saint-Étienne est devenue, par la mentalité de ses dirigeants, comme par celle de ses élèves, un foyer d'Action française. Les élèves de l'école des mines se conduisent exactement en face du mouvement prolétarien français, comme se sont conduits les jeunes étudiants russes tsaristes envers le prolétariat russe. Trotsky a dit, et Lénine a répété, que l'adversaire le plus redoutable, le plus irréductible de la nationalisation et de la socialisation en Russie avait été l'ingénieur. Ce que nous voyons en France nous permet de dire que l'adversaire le plus redoutable, le plus irréductible du mouvement prolétarien, c'est encore l'ingénieur, notamment l'ingénieur sortant de l'école des mines.
Génial. Génial. Alors, bien sûr que je regrette de ne pas avoir été à ce conseil municipal, parce que le Grielle était un tribun. C'était quelqu'un qui regardait les gens dans les yeux et puis qui modulait sa voix et qui était capable de la faire tonner quand ça en était nécessaire, ou bien encore de parler comme comme à la manière d'un chat gentil. Mais alors là, c'est terrible. Il s'en prend à l'ingénieur, il s'en prend à l'intelligentsia de Saint-Étienne.
En se réclamant de Lénine et de Trotsky.
Eh oui, eh oui. Alors, ces ingénieurs, il faut le comprendre, aux yeux de Le Grielle, aux yeux des communistes, c'était des fils de bourgeois. Et dans cette lutte du prolétariat contre le capital, bah, ils avaient le mauvais rôle. Et ces jeunes gens de l'école des mines ne pouvaient que défendre le capital. Et alors, la conclusion du réquisitoire tombe comme un couperet, comme une sanction. La subvention municipale de 700 000 francs à la construction de la nouvelle école n'est plus d'actualité. Il ne saurait en être question. Il n'est pas possible de distraire un seul centime qui, normalement, pourrait venir aider le prolétariat stéphanois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve écho de cette situation dans le journal des élèves de l'école des mines, Le Pic qui chante. Alors, je peux vous dire que ce n'est plus Le Pic qui chante, c'est Le Pic qui se déchaîne. Ouais. Toujours... dans une lettre ouverte, les élèves réfutent avec virulence l'idée d'être présentés comme des ennemis de la classe ouvrière. Ils le disent avec une forte démonstration qu'ils sont au contraire les défenseurs des ouvriers. Défenseurs pourquoi ? Défenseurs par les améliorations techniques qu'ils proposent aux entreprises. Ben c'est vrai, toutes les inventions majeures de cette époque-là sont faites à l'école des mines, et elles sont faites pour diminuer la pénibilité du travail et diminuer les risques, assurer la sécurité. Ils disent qu'ils en sont les soutiens par les réformes sociales les plus justes qu'ils souhaitent. Ils disent qu'ils en sont parfois les sauveteurs à toutes les graves inondations ou les coups de mine qui ont eu lieu. Bah, oui, les ingénieurs sont les premiers, et souvent les premiers à descendre. Voilà. Quant à leur origine familiale, alors là ils ne peuvent pas le supporter. Ah oui, c'est vrai, ils sont issus de la bourgeoisie. Mais ils vont retourner l'argument...
Ils ne sont pas les seuls.
Ouais, voilà, ils ne sont pas les seuls. Et ils vont s'en prendre à Jacques Le Grielle, et ils lui tombent à bras raccourcis dessus.
Monsieur le cinquième adjoint de l'esprit, fils d'un directeur de la Banque de France, venu au monde à l'ombre d'un coffre-fort, élevé par un précepteur particulier, maître Le Grielle, ose parler des fils de la bourgeoisie. Si nous avons abandonné nos études pour coopérer à la marche des services publics, ce n'est pas seulement pour permettre à M. Le Grielle d'aller à Lyon et à M. Durafour de se rendre à Paris, mais c'est surtout pour assurer, dans la mesure de nos forces, la prospérité du commerce, le ravitaillement de la population et la vie du pays.
Ça veut donc dire que ce monsieur Le Grielle, membre du Parti communiste, était lui aussi un enfant de la bourgeoisie. Qu'en penses-tu ?
Ah ben, c'est évident, on connaît bien Jacques Le Grielle. Alors, peut-être faut-il vous dire, fils d'un directeur de la Banque de France, et ben oui, vous connaissez, la Banque de France à Saint-Étienne est installée rue d'Arcole. Et la maison de la famille Le Grielle se trouvait à l'angle de la rue Malheureux, de la rue Malheureux, de la rue d'Arcole. Voilà. Et ça n'est pas fini. Mais avouez qu'on est là dans ce qui est le plus pimenté de la vie politique stéphanoise. Ça n'est pas fini parce que les élèves vont dégainer l'arme suprême à propos du financement de l'école. Ils sont au courant, et tous les stéphanois le sont, que le dossier du financement de l'école divise le conseil municipal. Pour dire la vérité, Antoine Durafour et le maire souhaitent que la subvention soit donnée. Alors, utilisant cette division-là à l'intérieur du conseil, les élèves proposent purement et simplement de transférer l'école ailleurs, dans une ville qui, elle, serait toute prête à accueillir l'école nationale, non plus à Saint-Étienne, mais à Douai.
À Douai.
C'est un chantage, évidemment, hein, car les élèves ont bien perçu quel était l'intérêt d'être dans une région métallurgique où le travail se réalise en lien à la fois avec le monde de la mine et à la fois avec le monde de la métallurgie. C'est un chantage insupportable pour les conseillers municipaux, car l'école est perçue comme un équipement indispensable au rayonnement de l'industrie céphanoise. Bon, les choses vont un petit peu se calmer. Le financement de l'école est bien réalisé de façon tripartite, à la fois par l'État, à la fois par le département, à la fois par les collectivités locales, et seront soutenus d'une façon incidente par les industriels céphanois. Mais les cicatrices sont profondes. Les cicatrices sont profondes, et j'en voudrais pour preuve un indice, ma foi, qui n'est pas majeur, mais un peu secondaire, mais qui est assez révélateur. Vous le savez, en face de la cour d'honneur de l'école des mines, telle qu'on la voit aujourd'hui, il y a le boulevard Karl Marx. Et c'est pas impunément que la municipalité a choisi. Ce boulevard Karl Marx a été ouvert, le nom en a été choisi en 1924. Donc l'école ouvre en 1927. Comment interpréter ? Oh, la municipalité cherchait des noms de rue. Pendant une certaine période, il a été question de donner à ce boulevard le nom de Lénine. Oh, puis non, on ne pouvait pas aller jusqu'à Lénine. Donc on s'est rabattu sur Karl Marx. Mais quand même, avouez que pour les directeurs de l'école des mines, dire l'adresse de l'école, oui, c'est facile, et signaler que c'est en face du boulevard Karl Marx, non, on n'ira pas jusque-là.
Alors, tu me permets de rajouter quelque chose, c'est que le siège de la SMPL, de l'Association des patrons de la métallurgie, en 1968, il était situé également boulevard Karl Marx. Et il y a eu une importante manifestation des métallurgistes jusqu'à ce siège, boulevard Karl Marx.
Bon, finalement, on ne s'est pas ennuyé hein, dans cette recension de la grève de Nice, enfin, qui recoupe, à mon avis, d'une façon assez intéressante, notre histoire locale. Hein.
Tout à fait.
Merci Jean-Paul et Maurice pour cette émission mensuelle du Grémos. On va peut-être juste terminer avec 2-3 informations en lien avec, bien sûr, l'association, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, parce que l'actualité est chargée. D'abord, renvoyer nos auditeurs au site du Grémos, un site internet qui fourmille d'informations où l'on peut retrouver également les émissions en ligne. Ce sont les www.gremos avec 2M, OS, www.gremos.l'autre.net. Alors, sur le site de Grémos notamment, simplement pour reprendre quelques infos et quelques rendez-vous en perspective, et bien vous dire que le 25 novembre prochain, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, et dans ce cadre-là, bon nombre de rendez-vous sont donnés à Saint-Étienne, notamment en conférence-projection du côté de la Cinémathèque Médiathèque de Saint-Étienne, avec une conférence de Florence Moreno, par exemple, qui est prévue ce samedi 21 novembre à 14h30, en après-midi. L'entrée y est libre. L'intitulé est celui-ci, « Femmes au pluriel au fil de l'histoire ». Donc rendez-vous en conférence projection avec Florence Moreno, écrivaine et historienne. Et puis, toujours dans ce cadre-là, et dans ce cycle d'ailleurs qui est mené au sein de la médiathèque Cinémathèque, eh bien, une projection du film documentaire « Femmes précaires », dont on avait parlé, je crois, d'ailleurs, avec le Grémos, de Marcel Tria. C'est un rendez-vous là qui aura lieu le 24 novembre, mardi prochain, à 20h, salle Moisoyer, en présence de Marcel Tria. Autre rendez-vous pour le 24 novembre, et cela a été relayé dans le cadre de la journée des rencontres du Grémos fin de semaine dernière. C'est une rencontre, conférence, présentation d'un ouvrage en tout cas qu'a réalisé la sociologue et ethnologue Corinne Védrine autour de Michelin. On n'est pas très loin, c'est dans la région, ou en tout cas quasi même région maintenant, hein, Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, elle a travaillé pendant des années sur le mythe Michelin, ethnologie du mythe Michelin, le capitalisme dans les grandes entreprises familiales. Elle présentera cet ouvrage et ce travail, et notamment donc le capitalisme à la Michelin, ce mardi 24 novembre prochain à 18h sur le site Tréfilerie, bâtiment M. C'est situé à l'entrée 33 rue du 11 novembre, arrêt Tréfilerie à Saint-Étienne. Puis les deux petits derniers rendez-vous avec les archives départementales cette fois, et là encore lien avec le Grémos, puisque c'est François Maguin qui va intervenir dans ce cadre-là autour des archives stéphanoises de la Grande Guerre. Et oui, on est aussi dans la célébration du centenaire. Présentation des fonds de la Cinémathèque sur la Première Guerre mondiale. Ce sera un rendez-vous donné vendredi 27 novembre prochain à 14h30 et 19h. Deux rendez-vous donnés pour une séance donc autour de montage d'archives en dépôt à la Cinémathèque, images du conflit, images de l'arrière, fiction, documentaire d'époque ou contemporain, et témoignages de poilus ligériens. Voilà, c'est aussi dans le cadre de l'expo Bénéfices de guerre, guerre de bénéfices 14-18 qui se tient actuellement au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Voilà, François Maguin, qui est professeur d'histoire, ou anciennement professeur d'histoire, spécialiste en tout cas de la Première Guerre mondiale, il collecte bon nombre de pièces.
Et membre du Grémos.
Et membre du Grémos, bien entendu. Voilà pour le 27 novembre prochain. Et puis simplement vous rappeler, parce qu'on l'a aussi annoncé sur le site du Grémos, c'est le spectacle Métallo et Dégraisseur à la MJC de Rive-de-Gier le 28 novembre. Novembre prochain, c'est la troupe des Tapas Trois Fois qui présente Métallo et Dégraisseur en partenariat avec la MJC des Tilleuls et le collectif Roosevelt. C'est le samedi 28 novembre prochain à partir de 20h. Et là aussi, Jean-Michel Stenner du Grémos aura l'occasion d'intervenir, de débattre autour de cette représentation. Voilà, discussion sur l'évolution sociale et économique de l'industrie métallurgique, de son apogée à sa destruction. Jean-Michel Stenner qui interviendra également demain, on l'a annoncé dans le cadre des rendez-vous info du 895 de Dio, puisque les PUF, publications de l'Université de Saint-Étienne, les PUS plutôt, organisent une rencontre ce vendredi 20 novembre à 18h au MRACH, campus Tréfilerie, autour du dernier ouvrage coécrit par Jean-Michel Stenner, Les maires de la grande ville ouvrière, une autre histoire de Saint-Étienne, alors qui va, je ne sais plus, de 1778 à aujourd'hui 2015. Voilà, demain les auteurs sont présents et un pot festif clôturera cette rencontre. On va terminer sur ces infos, Maurice et Jean-Paul. On va terminer en musique avec... Ah oui, alors là, je voulais aussi vous proposer cette écoute. On va le faire pour boucler, tout simplement. C'est une proposition qui intervient à l'occasion d'une date anniversaire, aujourd'hui, 19 novembre 2015. Retour sur le 19 novembre 1915. C'est la date de l'exécution de Joe Hill. Alors, beaucoup de liens avec... ou l'histoire d'aujourd'hui, finalement. Joe Hill, syndicaliste, d'abord un immigré qui est venu de Suède et qui est parti ensuite à immigrer aux États-Unis début du XXe siècle, et puis qui a perdu son père écrasé par un train de la compagnie pour laquelle il travaillait, vous voyez le rapport, et qui s'est engagé aux États-Unis au sein des Woblies, comme on dit, c'est-à-dire l'Industrial Workers of the World. Un syndicaliste, une haute figure des luttes d'alors, de l'époque, qui a été exécuté parce que condamné sur un meurtre qu'il n'avait pas commis, finalement. En tout cas, il est décédé en tout cas exécuté avec ces derniers mots-là. Ne perdez pas de temps dans le deuil, organisez-vous. C'est les derniers mots aussi qu'il avait pu écrire aux responsables de l'Industrial Workers of the World. Et on a retrouvé aussi dans ses affaires personnelles ces mots et légendes que je lis. Joe Hill, assassiné par la classe capitaliste, 19 novembre 1915, et il a inspiré bon nombre de Protest Singer, comme l'on dit, Bob Dylan et j'en passe. Joan Baez également, bien sûr, qui a chanté Joe Hill, fameux titre que l'on peut écouter ici et là. Et juste vous dire que Joe Hill, c'est un film d'un Suédois qui a été réalisé en 1971, qui est en version restaurée et qui ressort en cinéma et à l'affiche, et ce sera le cas au cinéma Le Méliès à Saint-Étienne à partir du 25 novembre prochain. Donc voilà, retour sur cette figure de ce syndicat, de ces syndicats américains, et puis un syndicat, notamment les Industrials Workers of the World, syndicat avant-gardiste d'extrême gauche. Voilà, pour boucler, on va écouter Pete Seeger qui chante Joe Hill. Pour le Grémos, ce sera rendez-vous le mois prochain, troisième jeudi du mois de décembre, bien entendu. À très bientôt.
Au revoir.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake Joe, by God, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses shot you, Joe. They killed you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. Standing there as big as life, smiling with his eyes. Joe says what they forgot to kill, went on to organize. Went on to organize. Joe Hill ain't dead, he says to me. Joe Hill ain't never died. Where working men go out on strike, Joe Hill is at their side. Joe Hill is at their side. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men go out on strike, says he, you'll find Joe Hill. Says he, you'll find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he.